bienvenue sur l'empreinte digitale. On va voir dans cet épisode comment créer une infographie percutante et j'ai le plaisir d'accueillir Mounir Moustalaf, alias Mounir Digital. Une image vaut mille mots. C'est un adage assez ancien, mais qui reste d'actualité aujourd'hui, notamment grâce à un format particulier, c'est l'infographie. Alors, l'infographie, c'est un type de visuel qui est un excellent support pour faire passer les points forts d'une idée dans un contenu qui est à la fois simple, original et facile à partager. Alors Mounir Moustalaf, c'est l'un des experts du digital qui sait le mieux aujourd'hui utiliser ce type de format dans sa communication. Sur ses comptes Mounir Digital, il regroupe près de 8000 abonnés sur Instagram et Twitter. Et sur son fil, Mounir publie chaque semaine des infographies qui font le lien à la fois entre l'actualité, le quotidien et son activité de webmarketeur. Alors dans le podcast précédent, l'épisode juste de la semaine dernière, j'ai reçu Mounir pour évoquer le lancement de son livre « Les réseaux sociaux expliqués en infographie » qui est paru aux éditions Erol. Alors j'ai profité de cet échange pour lui demander aussi de vous partager ses conseils d'expert pour créer des infographies qui soient visuelles et impactantes. Alors on a abordé avec Mounir les thèmes suivants. C'est quoi le rôle d'une infographie? À quoi ça sert? Sa méthode pour trouver des idées d'inspiration, parce que vous allez voir qu'il est très créatif, Mounir. Quels sont les outils qu'il utilise pour créer ses visuels? Quels sont les éléments importants à mettre en place dans l'infographie pour que ce soit punchy? Combien d'éléments intégrer dans une infographie? Parce qu'il ne faut pas non plus mettre énormément de choses, faut savoir être synthétique. Et pourquoi c'est important aussi d'avoir sa propre charte graphique? Alors je vais vous laisser en compagnie de Mounir pour cet entretien qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Je vous préviens, par avance, le son n'est pas super et le son n'est pas comme j'aime. Il y a des petites granularités qui ne sont pas géniales parce qu'en fait on n'a pas pu prendre des pistes son comme on voulait au départ. On a récupéré le son de la visio qu'on avait faite en zoom. C'est pas génial. Bon, ça reste audible, vous inquiétez pas, c'est pas du tout désagréable, mais c'est pas le son que j'aurais aimé vous proposer. Alors, je vous laisse avec Mounir, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin de cet entretien. Mounir, ce que je te propose, écoute, si tu veux bien, on va en profiter aussi de ta présence. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur les infographies? Alors, Mounir, il est connu pour son livre, mais il est aussi connu donc parce que c'est un expert de l'infographie. Vous connaissez Mounir, je suis sûr. Si vous regardez des créas, si vous ne voyez pas qui est Mounir, vous allez tout de suite voir parce qu'il a une charte graphique, c'est assez perso et on l'identifie rapidement. Mounir, toi, tu t'es spécialisé dans l'infographie alors qu'au départ, tu as fait un master de marketing digital. Ce n'est pas forcément qu'un truc de créa au départ. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le rôle d'une infographie? À quoi ça sert?
Comme je dis, la création de contenu visuel faisait partie de mes activités favorites. Depuis petit, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé dessiner les paysages, des choses en rapport avec mes centres d'intérêt, les mangas, Olivier Tom, etc. Les jeux vidéo, bon bref. Donc voilà, c'était quelque chose que j'ai gardé depuis petit et que j'ai réussi à garder dans mon métier actuel, en fait. Donc la créativité. Et aujourd'hui, une infographie, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un contenu visuel déjà. Visuel, facilement digérable, on va dire, agréable à lire, qui rassemble plusieurs éléments, donc un peu de texte avec des éléments visuels, des objets, donc des éléments textuels et des éléments visuels en une image dans le but de la rendre plus digeste. C'est, on va dire, un format qui permet de synthétiser une info et la rendre en image, d'où information et graphie, graphisme image.
Une image vaut mille mots, hein. Voilà, c'est donc ça, vous pouvez avoir beaucoup de choses à dire. Mounir, par exemple, il nous a parlé de sa première infographie qui a été virale. C'était ce qu'on pense d'un community manager et la vie réelle, quoi. Voilà, l'illusion et la réalité. Voilà, on pense que c'est un gars qui est sur Snap et Insta toute la journée, il est cool. En fait, non, c'est un gars qui travaille un message, qui le structure. Il faut qu'il trouve le bon canal, il faut qu'il publie au bon moment avec le bon wording et tout. C'est une vraie expertise. Et donc, du coup, il y avait une image fausse de la réalité. Alors Mounir, il aurait pu expliquer ça dans une vidéo YouTube de 20 minutes, dans un blog de 1500 mots qui soit bien calibré SEO, il aurait pu. Mais Mounir, il a une autre approche, il fait une approche infographie. Donc il résume tout ça dans une image et finalement, on a plein d'idées sous les yeux. Et il n'a pas forcément besoin de développer. C'est un peu comme si on faisait un bullet points, on mettait juste une liste à puces avec les éléments. Mais Mounir, le talent qu'il a, c'est de le synthétiser et puis de le mettre en image, de le mettre en vie. Oui. Alors, si vous avez envie, si vous avez du moins parfois des contenus experts, ça peut être aussi une bonne approche comme lui de parfois le synthétiser. Peut-être pas toujours, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser comme Mounir dans l'infographie, mais vous pouvez en faire de temps en temps parce que ça aussi, tu vas certainement me le confirmer, Mounir, j'imagine, c'est que les infographies, du coup, sur les réseaux sociaux, les gens, ils aiment bien ça.
Ils aiment bien parce que, comme je l'ai dit, que ce soit enfin, le public cible ou à l'époque les recruteurs ou les dirigeants d'entreprise, ils n'ont pas le temps sur leur fil d'actualité. Il faut leur donner, on va dire, le contenu de qualité voilà, sur un plateau doré. Et du coup, ben, oui, ils aiment bien ça. Le cerveau, on va dire, capte mieux en fait l'image. Il y a énormément de personnes qui sont visuelles plutôt qu'auditives, par des personnes retiennent mieux avec l'image. Et surtout quand il y a un objet central dessus.
Oui, du coup, bah, le pouvoir de l'image, hein. C'est vrai qu'il y en a qui ont de la mémoire visuelle, mais même s'il y en a chez eux, c'est moins prononcé, malgré tout, ça reste super efficace, même chez des gens qui sont très hémisphère gauche, très rationnels. Le pouvoir de l'image, on en voit beaucoup passer, hein, sur les réseaux sociaux, c'est des contenus qui sont super viraux, une citation, un truc comme ça, et du coup, ça marche toujours très bien. Alors Mounir, lui, il en fait beaucoup des infographies, et justement, peut-être l'occasion de t'avoir au micro aujourd'hui de ce podcast. Comment tu fais pour trouver tes sources d'inspiration?
Faut regarder autour de soi. Regarder autour de soi, ne pas hésiter à sortir, faire une balade dehors, par exemple, pas rester que chez soi, que ce soit en forêt ou faire du sport ou même entre amis, quand on est autour d'une table au sein d'un restaurant, autour d'un café. Donc sortir dehors, sortir de sa zone de confort. Lorsque l'on sort de la zone de confort, on apprend des choses, donc il y a des nouvelles choses qui viennent, peut-être des nouvelles idées auxquelles on n'aurait pas pensé si on était seul devant l'ordinateur ou devant le portable. Après, ne pas hésiter à faire de la veille, donc là c'est plutôt sectoriel, ne pas hésiter à voir ce que font les confrères, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et surtout ben, regarder les fils d'actualité en lien avec le centre d'intérêt de l'audience, donc voir ce qu'ils aiment et essayer de créer du contenu autour de ce qu'ils aiment pour que ça leur parle en fait. Donc, observation, c'est le mot-clé principal, pouvoir trouver de l'inspiration et faire surtout aussi également une autre activité. Donc, l'idéal, c'est de savoir dire stop parfois et peut-être bah, faire d'autres activités comme du sport, comme enfin, faire le ménage, faire la cuisine, voilà, faire des activités banales. Et des fois, bah, ça se peut que bah, en faisant la cuisine, dire ah oui, c'est vrai, peut-être que je vais parler des nouveautés Instagram avec une tasse de café. Ou un gâteau que je suis en train de faire actuellement, ou du couscous, je ne sais pas. Voilà.
Alors, vous avez vu Mounir, sa technique de créativité. C'est vrai que des fois, c'est une question qu'on se pose souvent. Hein. C'est comment je fais pour trouver des idées? Je sais pas quoi raconter. Des fois, on est un petit peu sec là. Alors Mounir, bah, tout simplement, il est curieux. Alors des fois, il est en train de faire, il s'arrête, il sort de son écran et puis bah, il va retrouver la vraie vie. Il fait un gâteau, il fait le ménage et puis du coup, il y a une idée qui va lui venir. Ou alors il va sortir, et puis dans l'environnement où il va se trouver, que ce soit en forêt, sur une balade, ou en ville, où il peut se trouver, bah, il va chercher une idée. Il y a un truc qui va l'inspirer à un moment, donc ça peut être aussi une bonne pratique pour vous.
Il y a aussi, j'ai oublié un point, surveiller l'actualité. Il se peut qu'il y ait un buzz qui tombe du jour au lendemain auquel on n'avait pas pensé. Parce qu'il y a les marronniers et les buzz. Les marronniers, c'est les dates clés qu'on sait de l'année. En général, il existe des calendriers sur le web pour pouvoir se positionner sur les dates clés afin de ne pas les rater, comme Noël, comme la Saint-Valentin, etc. Et il y a les buzz. Donc l'idée, c'est de surveiller les buzz et voir ce qu'il est possible de faire autour de l'actualité de grande envergure. Ça peut être la Coupe du Monde, ça peut être Squid Game, ça peut être, je ne sais pas moi, ce qui s'est passé avec la carte bancaire là récemment, avec Revolut. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un influenceur qui a partagé sa carte bancaire sur Internet et tout le monde en a profité.
15 000
Après,
euros, là, c'est ça?
ouais, voilà, il y a ça. Surveiller l'actualité forte, chaude en fait.
Ouais, surveillez l'actualité. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du news check-in. On a déjà parlé dans
C'est
un
ça.
épisode de podcast. Vous prenez de l'actualité, vous rebondissez dessus pour communiquer. Et puis, voilà, ça peut vous donner, justement, parfois, quand vous manquez de contenu, ça vous donne une petite originalité. Vous profitez d'effet d'aubaine et vous prenez un petit coup d'accélérateur aussi.
Ouais, dans le but de
Alors.
bénéficier des retombées de la grosse actu aussi. Et ils se disent, waouh, j'ai vu ça quelque part. Ils m'expliquent ça avec les réseaux sociaux, un conseil, je ne comprends pas. Ah oui, c'est original quand même. Donc voilà, l'objectif, c'est de surprendre et de retenir l'attention tout en étant qualitatif et en apportant de la valeur. Voilà.
Ouais, dites-vous que tous les jours, on est exposé à peu près, hein, au moins, alors ça dépend de l'endroit où on se trouve, entre 500 et 5 000 messages de marque par jour. Donc, c'est énorme, il y a énormément d'informations, à tel point qu'on appelle ça de l'infobésité, contraction entre information et obésité. Il y a beaucoup d'infos. Et ça, c'est que des messages de marque. Mais si vous allez sur Twitter, Instagram, vous prenez beaucoup de messages tous les jours. Il faut attirer l'attention. C'est la base de tout. Hein. Si vous connaissez le tunnel AIDA, attention,
Aïda,
intérêt, désir,
exactement.
action. Ça commence par l'attention. Si vous n'avez pas l'attention, vous n'irez pas jusqu'à l'action, l'achat à la fin. Donc, il faut attirer l'attention. Et Mounir, ce que j'aime chez lui, c'est son originalité, la façon dont il a de capter un truc d'actu ou de la vie quotidienne et d'en faire une petite créa. Bah, qu'on s'arrête parce qu'il y a l'originalité. Et du coup, tu as l'attention et ensuite tu peux les amener un petit peu plus loin, quoi.
C'est ça, surprendre, être original. On est tous créatifs, mais je sais que s'il y a des personnes qui sont plus créatives, ça se travaille en fait. Ça se travaille. Donc, on est tous créatifs, on a tous une part créativité en nous.
Il faut la développer, il faut la travailler, il faut la mettre en avant. Mais c'est vrai que, ouais. Alors, il y a des outils aussi qui nous simplifient la vie aussi pour le rendre tout ça assez joli. Hein. C'est aussi ça la difficulté. C'est, il y a le fond, il y a la forme. Alors, Mounir nous a donné sa méthode pour le fond. La forme, qu'est-ce que tu utilises, Mounir? C'est quoi? C'est quels outils tu prends?
Alors déjà, j'utilise mon cerveau, donc je pense que c'est un
En
outil important.
plus, t'as pas de licence à
C'est un
payer.
bon bienfait. Donc pour moi, c'est le cerveau pour réfléchir, pour les yeux, enfin le sens, pour observer. Et après, je pense que le papier n'est pas mort. Souvent, on retient beaucoup en faisant un croquis. J'y crois encore au papier, ne serait-ce que le sentir, le toucher. Je pense qu'on retient plus facilement en prenant une note que même moi qui est digital natif aujourd'hui, quasiment, j'ai toujours un rapport très spécial avec le papier. C'est très important pour moi de passer par un croquis. Donc, l'agenda papier, un petit calepin pas loin de chez soi. Ensuite, ben, il y a les outils connus. Donc, il y a Canva. Donc, on a Canva pour pouvoir réaliser des visuels très adaptés pour les personnes qui n'ont pas d'idée de contenu. On peut partir de templates et voilà, et surtout des éléments pour pouvoir personnaliser au maximum ses visuels. Après, voilà, il y a les outils de référence également. Je suis amené à utiliser, donc notamment l'outil Photoshop, pour aller plus loin dans la créativité. Et après, bah, les outils de veille, bien évidemment, pour pouvoir surveiller ce qui se passe sur le web. Donc, il y a Feedly. Feedly, je ne sais pas si tu connais. C'est un outil qui permet de surveiller la veille sectorielle de blog en blog. Et Twitter, vu que c'est dans l'actualité, avec les tendances, les hashtags, on peut voir ben, ce qui se passe en termes d'actu pour rebondir sur les éventuels buzz, ce que j'utilise globalement. Et après, des fichiers Excel pour noter les idées et ne pas les perdre. Voilà comment je m'organise. Voilà.
Alors, du coup, tu es présent sur plusieurs réseaux sociaux. Alors, Twitter aussi, tu l'utilises comme un canal de sourcing, hein, recherche d'idées. Et Twitter, c'est le plus efficace pour ça. C'est le seul réseau social qui vous donne en temps réel les tendances avec des mots-clés. Ça, c'est le plus intéressant pour toi. Et ensuite, tes créas, tu les relais sur quoi? Du coup, tes Twitter, LinkedIn, Insta. C'est ça? Facebook aussi, je crois.
C'est exactement ça. J'étais sur Pinterest, mais je concentre ma communication sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. Voilà. Et après, il y
Ok.
a la newsletter aussi.
Abonnez-vous à la newsletter de Mounir. On mettra un lien aussi en bas du podcast. Je vais vous mettre un lien aussi sur les outils qu'a évoqué notre ami Mounir, donc Canva, Feedly notamment. Je mettrai un lien juste en bas. Dis-moi, du coup, on profite de ton expertise, Mounir. Toi qui es quelqu'un qui a beaucoup de recul, beaucoup d'expérience et du succès avec tes infographies. Donc, c'est question de qualité, évidemment. Donc, dis-nous un petit peu, c'est quoi pour toi les éléments important pour créer une bonne infographie. Pour ceux qui voudraient se lancer comme toi, qui aimeraient créer ce type de contenu, ce serait quoi? Quel conseil tu pourrais leur donner? Qu'est-ce qu'il faut dans une pour faire une bonne infographie? C'est comme un gâteau au
Déjà, faut...
chocolat, c'est quoi la recette? C'est quoi ta
il
recette, Mounir?
faut connaître les formats, enfin, la taille des visuels sur l'ensemble des réseaux sociaux. Avant de se lancer, on ne va pas créer une bannière sur un post Instagram, une bannière rectangulaire vers horizontale sur un post Instagram. Instagram, par exemple, c'est des posts carrés, 1080 x 1080 pixels. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec Canva, on peut avoir la taille des visuels avant de se ruer à la production de contenu. Donc, respecter les formats de contenu visuel. Après, on peut éventuellement une bonne infographie à un bon titre, concis et impactant pour que le message bah, soit compris, pour qu'on sache de quoi ça parle rapidement. Donc, par exemple, le tableau périodique des réseaux sociaux, des Muguet Tools pour s'organiser, etc., etc. Après, bah, il faut que ça soit le sujet sur lequel on communique doit correspondre avec les besoins de la cible. Donc, on doit s'adresser avec. Il faut que le message soit compris pour la bonne cible. La thématique doit être destinée au bon public, à la bonne audience. avec le bon ton. Et les couleurs aussi. Je pense qu'il vaut mieux être assorti. C'est comme les vêtements, hein, il faut être assorti. Ne pas mettre trop de couleurs. À part si l'objet central, par exemple, c'est un objet avec plusieurs couleurs. On va dire le fond, le branding, il faut être assorti deux, trois couleurs maxi, on va dire, et faire ressortir un contraste, on va dire. Si le fond est clair, bah, les textes doivent être foncés, en fait. Si l'arrière-plan, le visuel est clair, les polices d'écriture doivent être foncées pour que ça soit facilement lisible. Donc, le message doit être cohérent en fonction des besoins de la cible, des problématiques que rencontre la cible. Si l'audience connaît des problématiques d'organisation ou de créativité sur les réseaux sociaux, on ne va pas créer un truc en rapport avec Google Ads ou. Voilà, si ça reste les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, par exemple. La police d'écriture doit être choisie correctement, là aussi. Il faut que ça soit lisible, assez lisible, et quelque chose qui est moderne. Et la taille aussi. Il ne faut pas oublier qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Si le contenu textuel sur le visuel est trop petit, ben on va devoir faire des zooms sur le visuel une fois qu'il sera publié. Donc, ce n'est pas trop bon pour l'expérience utilisateur. Les textes doivent être assez lisibles et le titre également en grande taille, évidemment. Et les éléments, les objets, c'est-à-dire les éléments graphiques, les icônes ou encore les formes, doivent être cohérentes en fonction du message. Par exemple, si je veux dire attention, je vais mettre l'icône warning, par exemple. Donc, titre, objet, couleur, police, message cohérent. Voilà les bons ingrédients qui feront que l'infographie sera réussie.
Un bon gâteau au chocolat.
Voilà.
Du coup, il faut que ce soit lisible. Alors, c'est un peu le maître mot de ce que tu dis. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, qu'on soit sur Insta ou autre, on peut pas zoomer, on zoome pas quand on est sur un téléphone. Il faut que ce soit lisible, du coup. Si on comprend bien, il faut pas trop surcharger l'infographie parce que si on met trop de choses, ça, on pourra pas. Combien d'idées maxi par infographie? Combien de bullet points, quoi, ou...
Bah, l'idéal, c'est de mettre des titres. Si on veut parler par exemple, de 5 avantages d'avoir un blog en plus des réseaux sociaux, eh bien, les 5 avantages doivent représenter des titres, en fait. C'est pas on met des paragraphes. Ne serait-ce que 2 phrases, pas plus. L'objectif de l'infographie, c'est d'imager, de synthétiser. Donc, faut pas oublier cet aspect de synthèse. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y aura la légende des publications qui viendra compléter l'explication du visuel. Donc, il faudra pas surcharger l'élément. L'infographie de texte, surtout de texte. Et 2, 3 éléments au maxi, je dirais, il y a l'objet central, les éléments textuels, le titre, et le rappel des réseaux sociaux, les prises de contact, le copyright, pour savoir qui a créé le visuel, ça c'est important.
Voilà, si vous avez les éléments à peu près, vous avez un peu l'expérience à le recul de Mounir pour faire une bonne infographie, donc vous avez bien compris. Ça demande un certain talent, on va dire, mais bon, allez, ça reste accessible quand même à tous, notamment avec des outils comme Canva qui peuvent aussi vous simplifier la vie. Moi, je suis plus à l'aise avec l'écrit, l'image, c'est plus compliqué. Outils comme Canva peuvent vous dépanner. Mais après, inspirez-vous aussi, regardez ce que fait Mounir, allez voir ses réseaux sociaux, allez voir comment il travaille ses infographies, décryptez-les un petit peu, regardez son livre, évidemment, là vous aurez vraiment le temps de bien, avec le papier, de prendre le temps de bien visualiser les formats. Et puis après, trouvez votre style, trouvez votre charte graphique. C'est un peu ce que tu nous dis aussi, Mounir, de ne pas changer de charte graphique à chaque fois, hein, rester
Ouais,
assez
l'idéal,
cohérent.
c'est la charte graphique est importante. Il faut garder les mêmes couleurs sur un certain temps pour qu'on soit mémorisable aux yeux de l'audience. Pour que l'audience, à la fin, se dise, ouais, ça appartient à X. Par exemple, toi, c'est le violet. Je sais très bien que il n'y a pas longtemps que tu avais sorti un e-book avec avec 23 experts, enfin, sur un calendrier de l'Avent en mode e-book. Donc je sais que si demain on publie un et que c'est relayé par quelqu'un d'autre. Ben, je saurais que ça vient de toi. Donc, avoir un branding cohérent dans les visuels, c'est très important dans le but d'en favoriser la mémorisation pour l'audience sur le long terme. Il y a des gens, ils ont coupé mon nom et tout en bas. Hein. Ça fait partie
Ah, c'est pas
des
gentil ça. Ça,
batailles.
c'est pas sympa ça.
C'est pour ça que j'ai essayé de retravailler comment il s'appelle, le watermark là, qui permet de protéger une image. Et bien, malgré tout, les lecteurs fidèles de mes images sont venus en messagerie et me disent, c'est pas à toi ça. Donc, en gros, ils ont reconnu mon travail, même si ça a été coupé, une partie de l'audience reconnaît le travail. Donc, c'est important d'avoir le branding. Toujours les mêmes polices, les mêmes couleurs. Changer à chaque fois, c'est signe d'une instabilité dans la stratégie de contenu. Faut avoir quelque chose de cohérent, d'unique et, on va dire, quelque chose, voilà, de constant.
Ouais, ne faites pas, ne changez pas, parce qu'après, c'est du kaléidoscope, après ça brille, donc enfin, on ne reconnaît pas. Quand vous allez sur Netflix, vous avez tout de suite, vous savez que vous êtes sur Netflix parce que vous avez reconnu l'interface, les codes couleurs, le logo, tout est là. Vous allez sur Amazon, vous reconnaissez tout de suite que c'est Amazon parce que tout est là, tous les codes couleurs et tout. Vous allez sur le site Apple, c'est pareil, vous savez que vous êtes là. Si Apple ou Netflix changeait tous les jours le logo, l'interface, la couleur et tout, à chaque fois, vous seriez un peu déstabilisé, quoi. Donc Mounir, il a une charte graphique clairement identifiée, c'est son image, et même si quelqu'un, franchement, ne faites jamais ça, mais si quelqu'un lui pique du contenu, bah tout de suite, on reconnaît que, on sait qui l'a créé, quoi. Mounir, toi, ta charte, elle est clairement identifiée, quoi.
Ben, c'est important. Même on le voit avec les marques aujourd'hui. Par exemple, Babybel, c'est bien le fromage avec le packaging rouge là. Il y a plein
Ouais.
d'autres marques qui ont essayé de faire pareil. Ben, ils sont inspirés du Babybel.
Mais Babybel, c'est Babybel, il n'y en a qu'un. Voilà, c'est une façon de vous protéger aussi, la charte graphique. C'est une façon d'être tout de suite clairement identifié. On sait que c'est vous. Donc, dans le fil d'intention qu'on disait tout à l'heure, au moins 5 000 messages de marque par jour, c'est énorme. Tout de suite, Mounir, quand il passe dans le fil Instagram, je sais moi que c'est Mounir, évidemment. Hein. Je le vois arriver, donc je m'arrête parce que je sais que c'est lui, je sais que je vais regarder ce qu'il fait, quoi. C'est une façon d'attirer l'attention, ce qu'on a dit tout à l'heure, de maximiser le taux de lecture, maximiser l'impact. Et puis aussi, ça vous permet de vous protéger, hein, notamment dans le cas de Mounir qui se fait parfois piquer ses créas. Encore une fois, ne faites jamais ça. Mentionnez Mounir.
Merci.
Merci Mounir pour ton retour d'expérience.
Ben, merci à toi encore pour l'invitation. J'espère que ce sera profitable aux lecteurs.
Moi, je n'en doute pas. Je sais que nos auditeurs seront attentifs à ce que tu as dit. En tout cas, c'est des conseils vraiment à valeur ajoutée. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, Mounir. Tout en bas du podcast, vous allez retrouver donc les réseaux sociaux de Mounir, le site de Mounir, les formations de Mounir, et puis un lien vers le livre de Mounir aussi pour découvrir donc son ouvrage.
Merci beaucoup.
Mounir, merci à toi. Et puis, écoute, au plaisir
Là, on continue
au prochain
d'écouter
entretien.
le podcast L'empreinte digitale avec attention. J'aime beaucoup, encore une fois, ce qui est diffusé. Voilà, je crois fort à un dicton, c'est donner avant de recevoir. Et moi, je sais que si je n'avais pas donné, je n'aurais pas touché certaines entreprises. Donc, moi, j'y crois à ça. L'inbound marketing, au bout d'un moment, le travail paye. Voilà.
Exactement. C'est du temps long parfois, hein. C'est moins rapide qu'une pub Facebook que vous allez balancer. Tout de suite, vous aurez peut-être un retour. L'inbound marketing, c'est du temps long parce qu'on crée du contenu. Plutôt que d'aller vers les autres, c'est les autres qui vont venir à nous. Mais par contre, ouais, effectivement, à long terme, c'est beaucoup plus payant. Si vous êtes en freelance, si vous avez une activité professionnelle, c'est une meilleure stratégie, ouais, clairement. On en parle souvent dans l'empreinte digitale, mais c'est l'occasion justement avec Mounir de mettre un petit peu l'accent là-dessus.
Oui.
Mounir, merci beaucoup encore une fois. Et allez,
Merci
je te
à
dis
toi
au
et bon
plaisir.
vent. À
Ouais,
bientôt.
merci.
Merci.
Bon vent à toi aussi, Mounir. Ciao, ciao. Ouais, j'espère que cet entretien avec Mounir vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des éléments intéressants, hein, notamment si vous souhaitez créer vous-même vos infographies. Vous avez vu que ces remarques et ces conseils sont vraiment pratico-pratiques. Hein. Mounir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur ces visuels. Il en a produit des centaines. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a de l'expérience pour pouvoir ensuite en tirer des bonnes pratiques qui vont nous aider à gagner du temps et à éviter de faire certaines erreurs. Alors je vous remets encore une fois le lien, hein, en bas de ce podcast du livre de Mounir, Les réseaux sociaux expliqués en infographie, paru chez Erol. Ses formations, hein, Mounir a aussi des formations qui sont certifiées Calliope. Je vous mets aussi un lien vers son LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Pour l'empreinte digitale, bah, je vous invite, hein, comme à chaque fois, à vous abonner à la newsletter. Hein, vous allez pouvoir profiter des contenus exclusifs, être informé en priorité des prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à la formation gratuite Le Scribe. Hein, c'est une formation gratuite par email, hein, une série d'8 emails qui vous apprend comment donner du peps à vos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous êtes sur une plateforme d'écoute de podcast, vous pouvez laisser une note et un commentaire et puis aussi partager cet article sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore de votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous!